Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être au rendez-vous de Mélomanie et bienvenue à l'écoute du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La rentrée est maintenant derrière nous et la saison des concerts se lance petit à petit avant de reprendre le rythme soutenu qu'on lui connaît habituellement. Nous allons déjà revenir sur les premiers événements du mois de septembre et vous présenter ceux qui s'annoncent. Autour de moi dans ce studio, les invités réguliers de Mélomanie, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À nos côtés, l'invité d'honneur de ce numéro, Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur musical de l'orchestre baroque des Passions de Montauban. Si nous le recevons, c'est parce qu'avec les Passions et le grand musicologue Gilles Cantagrel, il est en concert à la Chapelle des Carmélites dimanche 23 septembre pour l'ultime rendez-vous de la saison de musique en dialogue aux Carmélites, un concert où il va être beaucoup question d'un certain Jean-Sébastien Bach, mais aussi de Dietrich Buxtehude. Nous vous expliquerons tout ça un peu plus tard. Pour l'instant, c'est le moment de revenir sur l'actualité musicale de la semaine passée pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité de la semaine dernière, comme celle des deux prochaines, c'est toujours le festival Piano Jacobin, dont la programmation va se prolonger jusqu'au 29 septembre. Nous avons parlé du concert d'ouverture de Joaquín Achucarro lors du précédent numéro de Mélomanie. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Il faut dire qu'il y en a un tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Anne-Marie et Serge, vous avez assisté à plusieurs d'entre eux. On va commencer par celui donné samedi par Nicolas Horvat. Et une fois n'est pas coutume, même si nous allons bien sûr vous présenter ce pianiste français, c'est surtout le compositeur dont il a joué les œuvres que nous allons évoquer. Ce compositeur, c'est Moondog. Et alors là, il va falloir parler autant du personnage que du musicien. Serge Chauzy, vous étiez présent dans l'assistance samedi dernier au Jacobin. Qui était ce Moondog, de son vrai nom Louis Thomas Harding?
Oui, alors, ce Louis Thomas Harding, il n'est pas connu par ce nom, il est connu par le nom Moondog, un chien de lune, dont on ne sait pas d'où il vient. Il s'agissait d'un personnage, il s'est agi d'un personnage tout à fait hors norme, qui à 16 ans a perdu la vue, donc il est devenu aveugle. Il s'est retrouvé ensuite à New York, et à New York, il a vécu dans la rue, donc comme un homeless de l'époque. Et il a eu des fantaisies incroyables comme se déguiser en viking avec un casque avec des cornes. Bon, c'est un personnage vraiment tout à fait extraordinaire, mais qui a eu des liens avec le milieu musical. Il était passionné par la musique, évidemment.
Le jazz au départ, beaucoup.
Le jazz, beaucoup de jazz. Il a eu des liens avec les grands jazzmen de son époque, hein, comme Charlie Parker et d'autres. Mais il était vraiment passionné de musique classique. Et au fond, c'est ce qu'il souhaitait, avoir une espèce de reconnaissance vis-à-vis du milieu de la musique classique. Et il a eu des liens très étroits avec l'Orchestre Philharmonique de New York. Arthur Rosinski, qui était son directeur à l'époque, l'a même invité à assister à ses répétitions. Ensuite, Leonard Bernstein a fait la même chose. Donc, il était très proche du milieu symphonique, classique, new-yorkais.
Tout en vivant dans la rue.
Tout en vivant dans la rue. Alors, quelquefois, il a été hébergé par des amis. Il a eu des liens aussi avec l'école minimaliste répétitive, Phil Glass, Terry Riley, etc.
Steve Reich,
évidemment, qui l'ont tenu en haute estime, hein, vraiment, qui ont dit beaucoup de bien de lui. Et il composait, même quand il était dans la rue, sur les trottoirs de New York, bah, il a composé en particulier le premier livre de l'Art of the Canon, l'art du canon, dont on va reparler tout de suite. Et donc, c'est un personnage tout à fait incroyable qui a fini par voyager et aller en Europe et aller surtout en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce que son idole, c'était Jean-Sébastien Bach. Alors là, il avait une passion pour Bach et il a voulu à tout prix composer dans le style de Bach, l'art du canon. C'est un peu son art de la fugue à lui, hein, en quelque sorte, qu'il a composé en plusieurs livres. Et donc, il a vécu en Allemagne où il est mort, d'ailleurs. Mais là aussi, il a tissé des liens avec le milieu musical allemand. Hein. Tout en étant aveugle, eh bien, il a composé, il a joué de la musique. Il a inventé certains instruments de percussion, notamment la trimba, qui est un instrument qu'on connaît peu, hein, mais qu'on aimerait réentendre, qu'il a inventé lui-même. Bref, un personnage tout à fait exceptionnel au parcours incroyable, iconoclaste, et qui a composé dans tous les styles. Il a composé la musique électronique, il a composé du jazz, il a composé de la musique symphonique, il a composé plus de 80 symphonies quand même. Et il a été joué par l'Orchestre Philharmonique de New York, qui a même enregistré un disque. Il existe un disque très rare, hein, si vous le trouvez, attention, c'est un trésor, gardez-le précieusement parce que c'est un disque qui n'est plus édité évidemment.
Alors j'ai vu qu'il avait été proche aussi de Janis Joplin.
Oui, oui, mais de la plupart des grands musiciens de tous les milieux musicaux des États-Unis, en particulier de New York.
Alors, il faut dire que si on parle de Moondog, s'il a été programmé à Piano Jacobin cette année, ce qui peut surprendre évidemment, c'est parce que c'est l'année Moondog à Toulouse.
Ah oui, oui, oui.
Et là, c'était Moondog, le lancement. C'était
puisqu'il
lancement.
Est mort en 1999, donc il va y avoir 20 ans. Et donc, cette année a été choisie, ça a été poussé par Hervé Bordier en particulier.
Le directeur des musiques actuelles.
Voilà, par Amaury Cornu, qui a écrit une excellente biographie de Moondog. Et donc, ils ont essayé de stimuler l'envie de connaître le personnage à Toulouse, en particulier à Toulouse. Et Toulouse est la seule ville au monde qui organise une saison Moondog. Et la plupart des institutions musicales toulousaines, ouais, dans leur saison, eh ben, ont inclus un concert Moondog. C'est le cas donc Piano Jacobin, ce sera le cas du Festival Toulouse les Orgues.
Oui, parce qu'il a aussi composé pour l'orgue.
Voilà, exactement. Ce sera le cas notamment à la fin de la saison, en juin, par l'Orchestre du Capitole, qui va donner un concert, justement des œuvres qui avaient été enregistrées par le Philharmonique de New York.
Alors, on va parler du concert auquel vous avez assisté samedi dernier, joué donc par le pianiste français Nicolas Horvath. Au programme, c'était L'Art du Canon.
L'Art
trois
du
livres
canon.
De L'Art du Canon et
The Great Canon.
Canon.
Alors, pas le Grand Canyon. Hein,
le c'est Gros Canon.
The Great Canon, c'est-à-dire, oui, le Grand Canon, qui est un canon qui dure plus de 20 minutes hein, à lui seul, alors que les autres canons des trois livres
sont des pièces très courtes.
Sont des pièces très courtes. Certaines font moins d'une minute, 30 secondes, donc c'est très court, et c'est dans un style particulier. C'est basé sur, évidemment, le style de Bach, mais avec quelques harmonies un peu bizarres par moment, un rythme aussi qui vient perturber. C'est assez particulier. Alors, c'est une œuvre austère. Hein. C'est pas
on
du
va écouter
tout
un extrait tout à l'heure.
Une œuvre réjouissante et pétillante. Hein. C'est vraiment austère. Puisque la plupart des canons ne sont pas des allegros, hein, sont plutôt des largos. C'est vraiment très particulier. Et donc, on a eu ces trois livres et Le Grand Canon par Nicolas Horvath, qui lui aussi est finalement un personnage un peu hors norme.
Oui, spécialiste de musique électroacoustique.
Électroacoustique, hein. Il joue du piano classique, évidemment, mais il joue beaucoup, en particulier, les minimalistes américains. Et d'ailleurs, il a donné comme bis la deuxième étude de Phil Glass, qu'il a d'ailleurs magnifiquement joué en bis, après avoir joué tous les canons.
Alors là, oui, dans Moondog, vous l'avez trouvé comment?
Un peu à mon goût, hein, un peu trop accroché à la partition,
oui,
à mon avis. Et donc, bon, par moments, quelques fausses notes. Mais ça, bon, les fausses notes, ça se pardonne.
Oui, hein, ça arrive à d'autres.
Oui, au plus grand. Mais c'était finalement un peu monotone quand même, il faut l'avouer. Hein. Mais intéressant, parce que chaque canon a ses caractéristiques.
C'était une découverte à chaque fois.
Et puis c'est une découverte.
Très peu étaient dans la salle, devaient connaître déjà, je pense, les pièces en question.
Ah ben non, personne. Hein. Donc, tout le monde a découvert. Et alors, je voudrais quand même préciser qu'avant ce concert, dans l'après-midi à Ombre Blanche, il y avait eu une conférence à deux avec Hervé Bordier et surtout Amaury Cornu, qui a présenté donc à la fois la biographie résumée, ce qui est une performance, résumée en un quart d'heure à peu près, de Moondog, et puis il a parlé de la saison et des principaux événements qui balisent toute cette saison à Toulouse. Donc saison qui est enviée par certains Américains qui ont correspondu avec ces deux personnes pour dire leur admiration devant le fait que Toulouse
ait osé
organiser une saison Moondog.
Il est vrai que ça intrigue beaucoup.
Oui.
Alors, pour ceux que ça intrigue, on va écouter maintenant un extrait de L'Art du Canon, le livre 1, c'est le 8e morceau. Écoutez ça, c'est vraiment particulier. Thank you. Voilà, huitième morceau du livre 1 de l'art du canon, œuvre de Moondog, un de ceux qu'a joué Nicolas Horvat samedi dernier lors de son concert au cloître des Jacobins. Et des concerts, vous en avez vu d'autres, Anne-Marie et Serge. Alors Serge, vous voulez dire un petit mot aussi sur celui de Joseph Moog, auquel vous avez assisté jeudi 6 septembre.
Oui, effectivement. Alors Joseph Moog, c'est un jeune pianiste allemand, entre nous qui parle à peu près toutes les langues, c'était vraiment incroyable, et qui est vraiment une personnalité. Alors il a donné un programme, il a offert un programme assez particulier qui part de Mozart et qui arrive à Ravel. Et avec de grandes différences. Je dois dire que j'ai été un peu déconcerté par ces deux fantaisies, les fameuses fantaisies en ré mineur et en ut mineur de Mozart, qui sont des œuvres extrêmement intimistes, tragiques même, des œuvres d'une intériorité extraordinaire, et qu'il a joué avec une virtuosité, à mon goût, encore une fois, un peu extérieure, quoi, un peu forte, avec des tempi très vifs, un peu exacerbés. Quoi. Il me semble que ces œuvres-là méritent un peu plus d'intériorité. Tout a changé à la suite de ça, puisqu'il a joué la sonate numéro 14 de Beethoven, la fameuse sonate au clair de lune. Là, alors, par contre, là, on s'est retrouvé vraiment dans le climat beethovenien complet. Et ça a été l'apothéose avec la deuxième partie du concert, avec deux œuvres de Liszt, notamment les trois sonnets de Pétrarque, oui, qu'il a magnifiquement joué. Et puis, une rhapsodie hongroise, la rhapsodie hongroise numéro 12, de Liszt, mais agrémenté par lui-même,
revu par lui.
Il a fait un peu ce que faisait Horowitz, quoi, à son époque, qui revoyait les pièces virtuoses de Liszt pour les rendre encore plus injouables, donc en rajouter. Eh bien, lui, c'est ce qu'il a fait, mais avec beaucoup de talent. C'était un talent de funambule dans cette rhapsodie hongroise. Et puis ensuite, il a terminé par une œuvre terrible à jouer, le Gaspard de la nuit de Ravel.
Oui.
Et là, vraiment, il s'est révélé complètement, avec une fluidité extraordinaire dans Ondine, avec une espèce d'hypnotisme dans le gibet, avec cette note qui retentit de manière systématique et obsessionnelle. Et puis, le Scarbo effrayant, incroyable. Donc ça, c'était vraiment magnifique. Et il a donné pas moins de 5 bis devant le succès qu'il a obtenu.
Il n'était pas chiche, ce jeune Allemand.
Avec du Scarlatti arrangé là par Karl Tausig, qui était un élève de Liszt. Puis il a joué une étude de tableau de Rachmaninov, puis de nouveau une Xardas de Liszt. Et puis il a terminé avec une improvisation de son cru, donc une improvisation sur la chanson Wonderful de Gershwin. Vraiment un très, très beau récital finalement, même si le début, moi, m'a déconcerté.
Vous allez un peu sur votre fin,
oui,
bon,
oui.
Mais bon, pianiste à suivre que Joseph Moog. J'en viens maintenant au concert de Sergueï Babaïan, c'était mardi, et là c'est Anne-Marie qui était présente. Alors déjà, il faut peut-être nous présenter ce pianiste, bon, qui maintenant est dans la maturité, c'est pas un jeune pianiste, hein, mais apparemment qui vous a beaucoup intéressé.
Oui, c'est un pianiste qu'on ne connaît peut-être pas tellement en France, mais qui fait une très grande carrière. Il vit aux États-Unis, où il s'est installé, à Cleveland, où il enseigne également. Il est d'origine arménienne, il est né dans l'Arménie soviétique, mais il a été formé au conservatoire de Moscou, comme beaucoup d'interprètes, de grands interprètes russes. Et il mène une carrière importante, puisqu'il est aussi, il a enregistré des disques avec Martha Argerich, il fait équipe avec elle régulièrement. Donc c'est un artiste de grande classe, qui a en plus un tempérament, une virtuosité puissante, exceptionnelle, mais qui en même temps aussi sait jouer Chopin avec évidence naturelle. Sa technique lui permet de tout jouer avec une technicité inouïe, par exemple dans une étude tableau de Rachmaninov, et ensuite d'enchaîner des œuvres très diverses. Il a aussi ouvert le récital avec une pièce de Arvo Part, estonien, toujours vivant. Et il faut peut-être rappeler aussi à cette occasion que, comme vient de le dire Serge, c'est que cette année, il y a à Piano Jacobin beaucoup d'artistes connus ou moins connus, mais qui sortent des sentiers battus, des habituels récitals où on trouve toujours les mêmes œuvres. Je trouve qu'il y a des œuvres qui sont quasiment des créations, au moins des œuvres tout à fait nouvelles. On a découvert là une pièce de Vladimir
Ryabov,
je le dis mal, qui était un hommage à une pianiste disparue. On découvre des choses indépendamment du grand répertoire, et c'est ce qui fait le grand intérêt de ce festival de piano jacobin, qui propose tous les soirs un concert, un récital, avec des rencontres avec des artistes de sensibilités, de traditions très différentes, et qui va donc se poursuivre encore avec d'autres événements. Samedi, il y a une jeune pianiste, Célia Oneto Ben Saïd, qui est française, et elle a 27 ans. Elle mène une carrière un petit peu atypique, Lors de ce récital, elle va jouer des œuvres de Leonard Bernstein, par exemple, dont elle a elle-même réalisé des transcriptions. Donc, elle a transcrit les fameuses danses symphoniques de West Side Story, ainsi que l'ouverture de Candide. Et ensuite, elle consacre un récital à des œuvres tout à fait nouvelles, puisqu'on entendra du Ligeti. Enfin, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est du XXe siècle. C'est une jeune interprète, mais qui peut surprendre et qui ose aussi sortir des sentiers battus. Voilà l'intérêt.
Ouais. Alors, Leonard Bernstein, je précise, cette année, on célèbre le centenaire de sa naissance, puisqu'il était né en 1918.
C'est l'occasion.
Donc,
c'est
voilà,
ça.
Occasion de redécouvrir l'œuvre de Bernstein, en plus avec des transcriptions faites par cette jeune pianiste. Alors, donc, Sergueï Babaïan. Yann, très beau concert, on a senti que vous aviez aimé. Et puis il y a eu mercredi le grand concert d'Alexandre Tarot, avec lui aussi un programme éclectique, puisque un peu dans sa manière d'ailleurs. Hein. Ah, tout de même, il y avait du Couperin, du Beethoven, du Webern.
Oui,
ce ne sont pas les périodes. Bon, bref.
Mais il a composé son programme de manière extrêmement intelligente.
Ah, ça, je lui fais confiance.
Ce qui n'est pas étonnant, connaissant Alexandre Tarot. En fait, il faut dire que le fil rouge, l'épine dorsale, c'était Beethoven. Avec deux des grandes sonates de Beethoven, la 30e et la 32e. Donc, les sonates de la dernière période, les œuvres les plus fortes, les plus intenses, les plus dramatiques. Mais alors, dans la première partie, il a fait précéder la sonate numéro 30 de pièces de Couperin, pièce dite pièce de clavecin, jouée au piano évidemment, 6 pièces. Et ensuite est venu Beethoven. Et vraiment, dans la filiation, c'était vraiment très intéressant d'entendre Beethoven après Couperin. Et dans la deuxième partie, il a fait précéder la dernière sonate de Beethoven, des variations opus 27 de Webern. Alors là, ça a renforcé le modernisme de la dernière sonate de Beethoven, qui est hallucinante, cette sonate, qui est incroyable. En deux mouvements, complètement hallucinés, effectivement. Donc, c'était vraiment un programme très, très bien construit. Alors d'abord, le Couperin est bon. On connaît le jeu d'Alexandre Tarot, d'une grande clarté, d'une transparence absolue. On entend toutes les voix, toutes les notes. L'essentiel est dit et souligné, avec quelquefois des choses qui peuvent paraître étonnantes, par exemple certaines notes graves, insistantes hein, par rapport aux notes aiguës, avec de l'ironie. L'ironie, par exemple, pour la pièce qui s'appelle « Les calotins et les calotines », évidemment, avec une espèce d'obsession dans la grande passacaille au milieu, puis alors une beauté, une nostalgie, d'une douceur extraordinaire pour les ombres errantes, et le fameux tic-tac-choc à la fin qui est une espèce de feu d'artifice tout à fait réjouissant au piano. Donc voilà ce qu'il a donné de Couperin. Ensuite est venu Beethoven, et là on a un choc. Parce qu'on reçoit un vrai coup de poing de la part d'Alexandre Tarot. C'est un Beethoven volcanique qu'il joue. Et en particulier cette sonate numéro 30 qui commence par une espèce d'explosion est vraiment frappante. En particulier le prestissimo qui est le deuxième mouvement, il s'achève sur un cri de rage. On a l'impression d'entendre Beethoven protester contre le destin qui lui est offert avec sa surdité dramatique. Et puis le troisième mouvement de cette sonate qui est un édifice qui aboutit au néant, qui aboutit au silence absolu. Et là, c'est quand même un certain talent pour un pianiste, pour un musicien en général, de donner à un silence une telle intensité. Et donc c'est ce qu'a fait Alexandre Tarot. Et puis ensuite, la deuxième partie a débuté par ces variations, ces trois variations, opus 27 d'Anton Webern. Alors là, c'est le contraste complet, évidemment, puisque c'est une partition totalement atonale, hein, qui a sûrement étonné pas mal de spectateurs ce soir-là, mais vraiment une pièce, comment dire, une espèce de puzzle, de micro-puzzle. C'est une pièce très courte, les trois mouvements font 6 minutes, hein, à peine. Et tout ceci s'enchaîne avec la tragédie que représente l'opus 111, la dernière sonate de Beethoven.
Merveille qui est l'opus 111.
Une merveille incroyable et qu'il a donné, alors, c'est un drame du début à la fin, cette sonate, avec ce deuxième mouvement qui est de loin le plus long, hein, qui s'appelle Arietta, d'ailleurs, et qui est un mouvement à variation. Et il l'a joué de manière extrêmement moderne, après le Webern, ça frappait, et tellement moderne que ceux qui connaissent bien cette sonate savent qu'au milieu des variations de l'Arietta, il y a une variation qui ressemble à du jazz, complètement. Eh bien là, elle n'apparaissait pas plus que les autres, parce qu'elle était en situation, dans la manière de le jouer. Et donc il a eu un énorme succès à la fin, il est revenu, il a joué qu'un seul bis quand même, et il a joué une valse de Chopin, avec une finesse, une grâce, une légèreté qui contrastait beaucoup avec le dramatisme qu'il avait mis dans les interprétations de Beethoven.
Voilà, alors on va l'écouter, Alexandre Tarot, jouer une des pièces du programme qu'il a interprété mercredi au Jacobin. Vous en avez cité beaucoup des compositeurs et des œuvres qui ont été jouées ce soir-là, et notamment le TikTok Choc de François Couperin. Et bien, c'est cette œuvre que je vous propose d'écouter maintenant. Choc très joyeux, très virtuose de François Couperin, interprété par le non moins virtuose Alexandre Tarot. Ça, c'était une des pièces qu'il a jouées mercredi lors de son concert au Jacobin. Et Piano au Jacobin, ben, ça continue la semaine prochaine. Anne-Marie nous a déjà parlé du concert que donne Célia Onetto Ben Saïd samedi à 20h. Et puis alors, est-ce que vous avez coché sur votre petit agenda, Serge, le concert, il faut qu'on en parle, de notre Toulousain, Bertrand Chamaillou, qui bien joue sûr à Saint-Pierre-des-Cuisines, lui, hein, c'est à Saint-Pierre-des-Cuisines, oui, mercredi 19 septembre à 20h. Il sera accompagné sur le plateau par la danseuse Elodie Sicard, et il va jouer, tenez-vous bien, c'est du John Cage, et ce n'est que du John Cage, œuvre pour piano préparé. Qu'est-ce que ça veut dire, piano préparé?
C'est un piano, j'allais dire, entre guillemets, amélioré, en ce sens que...
Ça dépend du point de vue de...
Bien sûr, mais non, mais modifié et enrichi. On peut pas dire que le contraire, c'est enrichi. Pour certains, c'est pas un non-sens pour chose, certains, oui. Mais là, c'est un piano dont on équipe les cordes de petits...
Des vis.
De petits corps particuliers, quelquefois du papier, des vis. Ça peut être n'importe quoi, un cure-dent,
Une balle de ping-pong.
Balle de ping-pong, exactement, oui. Et ça, évidemment, le son que chaque note donne est très particulier. Et chaque note a un timbre différent de la suivante. Donc, évidemment, c'est propice à créer des œuvres très particulières, adaptées à ce type d'équipement. Et John Cage était le grand maître du piano préparé, que d'ailleurs Bertrand Chamaillou a déjà joué il y a quelques années au musée des abattoirs, au musée d'art moderne, et il avait donné tout un spectacle avec divers pianos, dont un piano préparé.
Oui, parce qu'il y aura plusieurs pianos du coup sur le plateau, parce qu'ils sont tous préparés différemment suivant les pièces qu'il va jouer.
Certainement.
Il va jouer. Et donc il y aura, alors il est vaste le plateau de Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est pour ça d'ailleurs que ce concert a lieu là-bas, ça ne pouvait pas avoir lieu évidemment dans le coin des Jacobins, puisqu'il y aura la danseuse Elodie Sicard qui va faire quelques arabesques, pas, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, pendant que Bertrand Chamaillou va jouer. En revanche, ce qu'on peut vous faire entendre, c'est la musique. On va écouter un interlude, ce recueil d'œuvres pour piano préparé de John Cage, interprété par Bertrand Chamaillou. « C'était bien Bertrand Chamaillou qui jouait du piano, mais un piano préparé, donc interlude, extrait de œuvre pour piano préparé de John Cage. Et Bertrand Chamaillou sera en concert avec ce programme et la danseuse Élodie Sicard le mercredi 19 septembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines dans le cadre du festival Piano aux Jacobins. Et nous terminons cette première partie d'émission avec John Cage et Bertrand Chamaillou. Petite pause d'une minute et nous nous retrouvons pour le second chapitre en compagnie de Jean-Marc Andrieux, de Bach et de Buxtehude. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et donc avec notre invité d'honneur, Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur musical de l'Orchestre Baroque des Passions de Montauban.
Mélomanie, l'agenda.
Jean-Marc Andrieux est l'invité de ce numéro pour évoquer avec Anne-Marie, Serge et moi le concert qu'il donne avec ses musiciens des Passions de Montauban à la Chapelle des Carmélites dimanche 23 septembre à 16h. C'est le dernier rendez-vous de musique en dialogue aux Carmélites, la saison organisée par Catherine Kaufmann de Saint-Martin. J'ai dit concert, mais j'aurais dû dire concert-lecture puisque c'est le principe de cette saison. Et en ce qui vous concerne, Jean-Marc Andrieux, pour celui qui a été intitulé Le Voyage à Lübeck, vous êtes adjoint les services d'un récitant très prestigieux, Gilles Cantagrel. On va commencer par rappeler qui est Gilles Cantagrel, que vous connaissez très bien parce qu'il ne s'agira pas à la Chapelle des Carmélites d'une première rencontre avec lui, loin de là.
Ben Gilles Cantagrel, je crois que ça fait 15 ou 20 ans que nous nous connaissons et nous avons déjà créé ce programme il y a une quinzaine d'années, en 2003, la rencontre de Lübeck. Et puis le temps passe et puis on a envie de se revoir. Finalement, on va redonner le même programme parce que c'est tellement beau et les gens ont tellement aimé, nous aussi d'ailleurs, qu'on aura plaisir à se retrouver et à redonner le même programme.
Alors Gilles Cantagrel, grand musicologue et puis très grand spécialiste de Bach, peut-être le plus grand spécialiste de Bach en Europe. Est-ce qu'on peut dire ça ?
On peut oser le dire, oui, 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 j'imagine. C'est le président de la société Bach en Allemagne. Hein, il est reconnu même par les Allemands qui, quand même, sont regardants sur Bach. Et oui, je pense, en tout cas en France, c'est clair que c'est la personne qui connaît le mieux Jean-Sébastien Bach dans sa totalité. Il est organiste aussi.
Hein, alors voilà, j'allais le dire, c'est aussi un musicien à la base lui-même, mais grand spécialiste de l'orgue. Il a produit des émissions radio pendant très longtemps, notamment France Musique, et il a même dirigé les programmes de France Musique entre 1984 et 1987. Ceux qui écoutent cette radio depuis longtemps le savent. Et puis il faut dire aussi que c'est un remarquable conteur. Et c'est important pour le concert du 23 septembre.
D'autant plus remarquable qu'il est l'auteur de nombreux livres sur Bach et sur la musique baroque en général, sur la musique d'orgue et sur ce fameux voyage à Lübeck. Évidemment, le fait qu'il raconte l'histoire donne encore plus de vie au récit.
Alors, Le Voyage à Lübeck est inspiré du livre de Gilles Cantagrel dont le titre est La rencontre de Lübeck. Cette rencontre, c'est celle qui a eu lieu dans cette ville en 1705 entre le jeune Jean-Sébastien Bach et le vieux Buxtehude. Alors pourquoi je dis le jeune Bach et le vieux Buxtehude? Parce que Bach avait à peine 20 ans à l'époque, oui. Et Buxtehude en avait 68, il est mort 2 ans après d'ailleurs, il est mort en 1707. Alors il va falloir que vous nous racontiez un peu les circonstances de cette rencontre et ce qu'étaient à ce moment de leur vie respective Bach et Buxtehude.
Bon, je vais quand même dire minimum pour ne pas trop révéler ce qui va être raconté.
Voilà, sans tout dévoiler.
Ça va pas trop dévoiler, mais il faut savoir donc que Bach est un jeune organiste, très talentueux bien sûr, et qui est à ce moment-là de sa vie, depuis d'ailleurs qu'il a une dizaine d'années, une éponge. Il absorbe tout ce qu'il lit, la nuit il se lève au clair de lune, il va copier des partitions qu'il va dérober à son oncle qui l'élève, et il trouve une astuce pour sortir les partitions d'une armoire, parce que évidemment son oncle ne veut pas qu'il... En tout cas, il veut tout savoir, il veut tout apprendre, et il veut tout absorber. Et évidemment, il entend parler du grand compositeur qui est Dietrich Buxtehude, qui officie donc à Lübeck, qui est l'organiste et le compositeur de la Marienkirche de Lübeck. Et Bach demande un congé à son employeur. À ce moment-là, il est à Mühlhausen, je crois. Arnstadt.
Il est maître de chapelle, déjà ?
Il est organiste. Il est organiste, et alors il demande un congé d'un mois pour aller apprendre la composition. Et un aspect très important de la composition à ce moment-là dans l'Allemagne luthérienne, c'est le choral, la façon d'orner le choral. Mais ça, Gilles le dira mille fois mieux que moi. Donc Bach part à pied, 400 kilomètres, il part à pied, il va écouter les concerts, il va se... excusez-moi l'expression, se goinfrer de musique et apprendre tout ce qu'il va pouvoir. Et ce congé d'un mois, finalement, il revient 4 mois après. Et là, évidemment, il se fait vertement tenser par son employeur.
Oui, il sera même, je crois, mis à l'amende un petit peu.
Au cachot.
Voilà,
il va se retrouver un peu au cachot. Donc, à l'époque, on ne rigolait pas.
Abandon de poste.
Voilà.
Chez les luthériens, ça ne rigolait pas. Alors, Lübeck, il faut dire, c'est vraiment l'Allemagne du Nord. Et à l'époque, Buxtehude, c'est le grand compositeur de l'Allemagne du Nord.
C'est un des grands maîtres avec Thunder, avec Weckmann. Il y a beaucoup de maîtres. Il y a une tradition de l'orgue à ce moment-là dans l'Allemagne du Nord qui est extraordinairement foisonnante. Et Buxtehude fait partie des têtes de pont, des têtes d'affiche, des grandes stars des organistes de l'Allemagne du Nord à cette époque.
Alors, il y avait quelque chose de particulier à Lübeck à cette époque. C'était les Abendmusiken. Qu'est-ce que c'était, ça?
Abendmusiken. Musiken, c'est, on va dire, des musiques, des concerts. Et Abend, c'est le soir. Les concerts du soir. Pendant la période de Noël. Noël, le plus souvent, et pendant les grandes périodes liturgiques de l'année, Buxtehude organisait des concerts spirituels, de musique spirituelle. Il composait des cantates, il composait des œuvres spécialement pour ces occasions-là, notamment deux recueils, Castrum Doloris et l'autre, je ne sais plus le nom. De toute façon, malheureusement, les partitions ont disparu. C'est un crève-cœur, mais bon, ces partitions ont disparu. Et, donc, nous contendrons de jouer d'autres partitions de Buxtehude, extraits de son corpus de cantates.
Et Bach va assister à toutes ces Abendmusiken.
Ah oui.
C'est là qu'il va beaucoup puiser, je pense, inspiration. En quoi ça va modifier, après cette rencontre et après ces 4 mois passés à Lübeck, son art de composition? Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après?
Il faut comprendre qu'à cette époque-là, évidemment, la musique circulait moins facilement et que c'est de la musique moderne que joue Buxtehude. Quand je dis moderne, c'est nouvelle pour cette époque-là, et Bach veut apprendre. Et je vous redis encore ce que j'ai dit, c'est que le but de cette musique est d'émouvoir le public par des procédés musicaux empruntés à la rhétorique, à l'art du discours, et que Buxtehude est le grand maître absolu dans cet art-là. C'est-à-dire que quand vous jouez un choral, pour un luthérien, pour un Allemand à cette époque-là, le choral, dès qu'il entend la mélodie, il entend les paroles. Et ça lui donne tout de suite des images poétiques tirées des textes liturgiques. Il s'agit avec l'orgue maintenant de mettre en musique et d'exprimer, d'illustrer les idées poétiques par des figures musicales. Et là, Buxtehude est un des grands maîtres.
Alors, sans tout dévoiler encore, qu'est-ce que va nous raconter Gilles Cantagrel le 23 septembre à la chapelle des Carmélites de cette rencontre?
Alors, deux choses, je pense qu'il va reprendre un peu la trame de ce qu'on avait donné il y a 15 ans. Deux choses, il va d'abord évidemment raconter le voyage et raconter les circonstances avec moins de détails que dans l'ouvrage dont il est l'auteur, bien sûr. Ça, c'est une chose, les circonstances, mais il va aussi nous introduire aux musiques qu'on va entendre, c'est-à-dire faire comprendre au public que veut dire Buxtehude dans sa musique et comment il fait pour illustrer le texte, même dans la musique vocale.
Alors ça, c'est l'aspect musical, on va y revenir bien sûr, et notamment on va parler du programme, des pièces que vous allez jouer ce jour-là. Mais est-ce qu'on apprend des choses vraiment sur les relations entre les deux hommes, les relations humaines, je veux dire? Est-ce qu'il y a des anecdotes?
Bien sûr, il y aura des anecdotes. Il faut savoir quand même que Gilles Cantagrel est un musicologue et que, un bon musicologue qu'il est, il ne va pas se permettre d'inventer des histoires. Il va même rétablir une sorte de vérité, entre guillemets, scientifique de musicologue sur certaines histoires qu'on aurait entendues, notamment l'histoire, par exemple, de la fille de Buxtehude qui, paraît-il, n'était pas très jolie et Buxtehude aurait voulu que Bach l'épouse pour lui succéder.
Ça, oui, ça se faisait à l'époque.
Ça, c'est une invention d'un musicologue du début du XXe siècle, et puis c'est devenu une espèce de légende. Et pratiquement un canular. Donc Gilles Cantagrel va rétablir des vérités historiques à ce niveau-là et il se base sur les sources fiables pour raconter des anecdotes de ce que Bach a pu visiter aussi dans la Marienkirche, l'église de Lübeck. Par exemple, Boussou lui montre toutes les innovations qu'il a faites sur son orgue. Et ça, Gilles Cantagrel va nous le raconter. Voilà un exemple.
Oui, parce que Bach devait rester que quelques semaines, normalement. Il va rester 4 mois. Donc on peut penser que la relation entre les hommes, c'est très bien passé, humainement parlant.
Elle se passe d'autant mieux que Buxtehude comprend vite qu'il a affaire à un génie en devenir. Et donc il a évidemment un grand plaisir et même une émotion à transmettre son savoir à un musicien fiable et qui saura perpétuer son savoir et son art.
Alors on en vient aux musiques que vous avez choisies pour illustrer ce que va dire, ce que va raconter Gilles Cantagrel. Alors, est-ce que c'est vous qui les avez choisis ou vous les avez choisis avec Gilles Cantagrel ?
On les a choisis ensemble. Gilles Cantagrel a validé mes propositions, on va dire, notamment les deux cantates de Bach. Alors, le schéma, c'est assez simple. Hein. En fait, on va commencer par chanter et jouer la cantate BW 196, qui est une cantate de mariage qui date évidemment d'avant le voyage. Ensuite, on donnera 3 cantates de Buxtehude en imaginant que Bach les aurait entendues. Rien ne le prouve et rien ne le contredit non plus. Et puis, on termine avec la cantate 4, Christlag in Todesbanden, de Bach, qui a été composée après le voyage.
Ou vraiment des années plus tard?
Juste après.
Et on voit vraiment une évolution, c'est palpable.
On entend une évolution, notamment dans le traitement du choral, ce fameux choral. C'est là que Bach va apprendre l'art de figurer le choral figuré. Et dans la cantate 4, c'est un des premiers exemples extraordinaires où Bach, cette mélodie, il va la faire entendre de toutes les façons possibles et qu'il va ornementer, exposer sous des formes différentes pour illustrer chaque verset de ce choral.
On va écouter une cantate de Bach pour illustrer un peu votre propos. C'est la BWV 131, jouée par les Passions de Beethoven sous votre direction. Or, celle-ci, si on la resitue dans l'œuvre de Bach, elle est à peu près à quelle période ?
Elle est après aussi, à peu près de la même époque que la cantate 4, c'est-à-dire 1705. 1705-6.
Donc voilà, c'est une cantate de l'après-rencontre avec Buxtehude.
Oui, et là aussi, même chose, le procédé, le choral figuré.
On écoute donc cet extrait interprété par les Passions de Montauban sous la direction de Jean-Marc Andrieux, la cantate BWV 131 de Jean-Sébastien Bach.
Oh.
Extrait de la cantate BWV 131 de Jean-Sébastien Bach, interprété par les Passions de Montauban. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on peut entendre déjà?
Alors, on entend trois plans sonores. D'abord, le continuo, c'est-à-dire le violoncelle et l'orgue qui assurent l'accompagnement. On entend, évidemment, ce qu'on entend le mieux, c'est le ténor Vincent Lièvre-Picard qui chante la mélodie, qui est le commentaire de Jean-Sébastien Bach sur le choral qu'on entend en arrière-plan par le chœur. Une voix qui chante ce fameux choral qu'on entend en valeur longue. Et le texte, c'est « Meine Seele wartet den Herrn », c'est-à-dire « Mon âme attend le Seigneur ». Donc Bach a choisi d'illustrer cette idée-là avec « Meine Seele va » et une note tenue qui va illustrer l'attente, et une vocalise assez longue qui aussi fait ressentir l'attente un peu impatiente du fidèle qui souhaite rencontrer le Seigneur.
Alors je propose qu'on écoute l'extrait suivant, ça vient dans cette œuvre juste après, on est vraiment dans l'ordre chronologique. Autre extrait qui va donner peut-être une autre vision, vous commenterez également cet extrait, donc la suite de cette cantate BWV 131. Autre extrait de la cantate BWV 131 de Jean-Sébastien Bach, toujours interprété bien sûr par les Passions de Montauban. Alors là, c'est une autre facette.
C'est un chœur, hein, un chœur avec les cassures de rythme qui, elles aussi, illustrent les changements de texte. Bon, je ne vais pas trop développer. En tout cas, ce que je voudrais dire, quand on écoute une musique de vocale de Bach, se priver du sens des mots, des paroles, c'est se priver de 80% de l'intérêt de la musique. Il faut vraiment rentrer dans chaque mot, dans le texte, et comprendre comment Bach a illustré chaque idée poétique.
Donc, le mieux, c'est d'arriver quand même à un concert en connaissant un petit peu les paroles.
C'est un peu comme l'opéra. L'opéra, c'est pareil. On peut écouter le spectacle, mais s'il n'y a pas de sous-titres, s'il n'y a pas de traduction, on passe à côté de l'essentiel. Serge, tu ne contrediras pas.
Tout à fait d'accord.
C'est vraiment important. Et c'est un plaisir. Le plaisir intellectuel de comprendre ça renforce le plaisir.
L'émotion,
exactement. Et ça soutient l'émotion, bien sûr.
C'est la même chose pour les récitals de mélodie ou de leader.
Exactement.
Ouais. Bah, ne pas comprendre les paroles d'un lead, c'est...
On passe à côté.
Ah, complètement.
On passe à côté. Il y a des clés, mais qui sont pas non plus très complexes. Et puis on écoute... Pardon, mais plus intelligemment aussi la musique.
D'autant plus que dans ces cas-là, que ce soit pour une mélodie ou pour les cantates, le texte précède la musique.
Eh ben oui.
Faut bien...
Exactement, exactement.
L'écriture du texte précède la composition.
La musique illustre le texte.
Absolument. Et ça, c'est le texte qui est premier. Ça, c'est un des moteurs essentiels de la musique baroque, c'est-à-dire c'est, oui. c'est parti sur ce principe-là en Italie.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des musiciens, des chanteurs qui vont vous accompagner le 23 septembre à la chapelle des Carmélites. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un par un?
Oui.
Et il y en a, ce sont de vieux compagnons de route, j'allais dire.
Oui, la
vieux,
plupart.
Pas par l'âge, hein, mais par, le, par oui, la durée oui. de la collaboration.
Oui, c'est des chanteurs fidèles, des passions qui collaborent régulièrement avec nous. Anne Maguette, soprano, donc, qui a participé à la plupart de nos enregistrements de Jean-Gilles et de Blanchard, donc une soprano merveilleuse que j'aime beaucoup, qui a une voix d'une grande pureté, d'une grande expression et qui prononce parfaitement, parce que là, il faut être très exigeant sur la prononciation. C'est le cas des quatre chanteurs d'ailleurs. Pascal Bertin, donc, haute contre, qui nous rejoint aussi pour cette production qu'on a eue assez souvent et qui participe aussi beaucoup avec les concerts des éléments de Joël Subiette. Sébastien Ombrecht, que l'on a connu dans La Passion selon Saint-Jean, qui était l'évangéliste.
Excellent
évangéliste. Un ténor, ouais,
très beau ténor.
Extraordinaire.
Souvenir magnifique.
Oui. Ah oui, oui, oui. Là aussi, une voix expressive et assez puissante. Et puis, qui a une belle expérience aussi de l'intégration dans un ensemble. Parce que ces chanteurs-là sont des solistes, mais doivent aussi être et oui. capables de chanter ensemble. Ce qui est le cas aussi de Stéphanie Baudin, dont le quatrième...
Larron,
j'ai failli le dire, je vous laisse dire. Le quatrième membre de ce quatuor vocal de grand luxe.
La voilà. basse, il est suisse.
Il est suisse, suisse et quasiment germanophone aussi, qui... bien sûr, avec de l'allemand dans son biberon.
Et puis les musiciens des passions qui vont se produire ce soir-là,
les musiciens, il y aura donc deux violons, deux altos, puisqu'il faut deux altos dans certaines œuvres, deux violons, deux altos, un violoncelle, un orgue et votre serviteur à la baguette.
Un certain Jean-Marc Andrieux. Alors je voulais préciser aussi que ce concert est donné en partenariat avec le Goethe-Institut de Toulouse, dans le cadre de la quinzaine franco-allemande en Occitanie. Et oui, ça tombe sous le sens du bac pendant la quinzaine franco-allemande, joué par des musiciens français avec un récitant français, Gilles Cantagrel. Et puis vous donnez ce concert non seulement à la Chapelle des Carmélites le 23 septembre, mais avant, vous l'aurez donné le vendredi 21 septembre à 20h30 au Théâtre des Lys d'Albi.
Oui.
Et ça, c'est aussi dans le cadre de la quinzaine franco-allemande. Et autre concert dans le cadre de la quinzaine franco-allemande, le samedi 22 septembre, la veille du concert à la Chapelle des Carmélites, à 17h à la cathédrale de Villeneuve-les-Maguelones. C'est à côté de Montpellier.
Exactement, vous savez tout.
Alors, tout y est. Eh bien, nous allons terminer là-dessus, puisque malheureusement, c'est la fin de cette émission. Je vais préciser aussi que l'avant-veille du concert à la Chapelle des Carmélites, le vendredi 21 septembre à 12h30, à la librairie Ombre Blanche, c'est rue Mirepoix à Toulouse, Gilles Cantagrel présentera et dédicacera son ouvrage « La rencontre de Lübeck ». Tous mes remerciements à Anne-Marie Souchamp et Serge Ozy d'avoir animé cette émission avec moi. Un grand merci bien sûr à Jean-Marc Andrieux d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, Jean-Marc,
avec grand plaisir.
C'est toujours, et ben nous aussi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à Radio Présence. Et puis, c'est toujours aussi passionnant d'échanger avec vous. Je rappelle donc que vous êtes en concert avec les Passions de Montauban et le musicologue Gilles Cantagrel, dimanche 23 septembre à 16h à la Chapelle des Carmélites de Toulouse pour le voyage à Lübeck, la rencontre entre Jean-Sébastien Bach et Dietrich Buxtehude en mots et en musique. Comme si vous y étiez, c'est le dernier rendez-vous de la saison de Musique en Dialogue au Carmélite. Je vous invite à consulter le site www.musiqueendialogue.org pour réserver vos places rapidement. Notez que le voyage à Lübeck est donné vendredi 21 septembre au Théâtre des Lys d'Albi à 20h30 dans le cadre de la quinzaine franco-allemande en Occitanie. À part ça, le festival piano aux Jacobins se poursuit et vous pouvez consulter le programme et réserver également vos places sur le site du festival www.pianojacobin.com. Et puis l'Orchestre National du Capitole va faire sa rentrée et lancer sa saison de concert à la Halle aux Grains vendredi 21 et samedi 22 septembre. Le vendredi 21 à 20h, il y aura donc un concert où il sera accompagné par le pianiste, ou plutôt où il va accompagner le pianiste Denis Kozoukin dans un programme Brahms-Prokofiev. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.com. www.radiomélomanie.fr. Merci beaucoup à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission, qui est disponible et réécoutable comme d'habitude en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite en attendant une excellente semaine musicale.